Éric Auziel, bonjour!
Hey, les gars, bonne journée!
Ben oui, bon début de semaine! Du bon soleil!
Ouais, de la belle journée!
Écoutez ça, cette bonne humeur ambulante sur deux pattes.
C'est ça. Ben, c'est un privilège d'être dans un micro, d'avoir un micro, d'être dans un studio.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est un privilège.
C'est un privilège.
Alors, Éric, d'abord, je pense qu'on doit en parler un peu. C'est quelqu'un qui a marqué le domaine journalistique sportif au Québec. Il est décédé en fin de semaine, Tom Lapointe.
Ouais, j'avais su. J'ai bien connu Tom. Très, très bien connu.
Tu l'as bien connu, toi.
Professionnellement et socialement. C'est un gars qui a été important, comme tu dis. Il était au palliatif depuis quelques temps.
Ça s'est fait rapidement dans la dernière année. Là, quand il a appris qu'il était malade, ça a décliné rapidement.
Ouais. Et Tom a été il était important au Québec parce qu'il a eu le scoop, ce que certains ont dit, le scoop du siècle.
Ouais.
La fameuse transaction qui a marqué le hockey et le monde du sport partout en Amérique du Nord, c'est Gretzky. Il était à Pittsburgh, chez Mario Lemieux, dans un événement social, un party, et il a appris, lui, que la transaction l'a été annoncée quelques jours plus tard, puis il l'a sorti. Puis c'est arrivé, puis j'ai croisé Tom à l'aéroport le jour qu'il a dû quitter le Québec.
Bon. Et... ça, avant d'en arriver là, parce que ça, je veux savoir ce que tu sais, toi. Si tu peux en parler. Mais Tom Lapointe, évidemment, c'est ça. C'est Gretzky.
C'est Gretzky beaucoup.
Mais c'est Lafleur aussi.
C'est beaucoup.
Le retour de Guy Lafleur après sa retraite,
c'était un vrai journaliste. C'était un gars d'écrit qui a fait de la radio à ses cassés.
Il était partout dans les années 80, ce gars-là.
Oui. C'était un gars qui était. Il avait beaucoup d'ambition. Il était très, très bien entouré. Il avait beaucoup de contacts. Alors, il a été important. Malheureusement, il a fait certains choix dans la vie, puis il s'est un petit peu éloigné du domaine médiatique ici au Québec. Il est parti à Paris, il est parti en Europe, puis après ça, il est allé aux États-Unis. Ouais. Mais c'est sûr qu'on lui doit cette fameuse primeur de la transaction de Gretzky. Transaction qui, en passant, messieurs, n'aurait jamais dû arriver.
Si t'es pas à l'aise d'en parler, tu me le dis.
Ben moi, je suis
c'est
à l'aise d'en parler.
Non, mais c'est parce que les gens se posent la question. Tom Lapointe, il était sur toutes les lèvres. Dans les années 80, au début des années 90. À un moment donné, zoom, plus rien. On n'entend plus parler. Il a dû quitter le Québec.
Je vais te dire ce que moi, je sais. C'est que Tom était devenu très populaire et avait investi. Puis, c'était lancé en affaires aussi en parallèle avec sa carrière. Puis, c'est des mauvais investissements. Moi, ce que je sais, c'est que c'est toujours une question d'argent. Il a dû emprunter de l'argent. Il devait, selon ce que j'ai su, devait de l'argent à des gens qui n'étaient pas des financiers, des banquiers.
Ouais.
On s'entend. Et puis
quand
là,
tu dois de l'argent à ces gens-là, puis tu en dois beaucoup, ça se peut que ce soit dangereux.
Ben, il a dû quitter. Puis moi, j'étais à l'aéroport le jour qu'il quittait.
T'étais là, toi?
Oui, c'était un hasard.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit?
Je m'en allais au Mexique,
okay.
Puis j'étais avec un de mes amis, Pierre, et on croise Tom. « Hey, salut Tom, comment ça va? » Et il nous dit « Hey, écoute, moi je quitte, j'ai des opportunités d'affaires en Europe, à Paris, des livres, des choses comme ça. »
Il quittait juste pour...
Puis naturellement, ben écoute Tom, bonne chance. Puis lui, il me disait qu'il allait revenir, mais qu'il s'en allait rencontrer. Mais on savait déjà, on avait entendu parler. Puis ça s'est fait rapidement dans le cas de Tom. Hein. Alors il est parti, puis là, Régent est allé rencontrer à Paris, a fait des papiers là-dessus. C'était des mauvais choix de vie, tu sais.
Des mauvais choix, ça on en fait
des
tous.
Des mauvais choix, l'investissement d'argent.
Il n'a pas été derrière l'hippodrome?
Il a essayé plein d'affaires.
Mais il n'a pas été aux opérations comme un des patrons de l'hippodrome?
Non, ça, je ne sais pas. Okay. Peut-être. Mais tu sais, c'était toute une génération de gars qui touchaient à tout.
Ouais.
Tu sais, des Guy Aymon, des Tom Lapointe. C'était des gars qui avaient des amitiés. Puis que l'amitié était très... c'était très loyal en amitié, cette catégorie de gens-là. Fait que Tom, il est parti.
Il est parti, puis il a essayé toutes sortes d'affaires à distance, il s'est retrouvé à LA.
Il a essayé d'écrire à distance sur Facebook, il a essayé plein de choses.
Il y a son show Tom, là, qui était sur les réseaux sociaux, mais il y avait un jeu également à lequel il croyait beaucoup, là. Il pensait que c'était pour être un méga succès à la télé internationale, puis alors que c'était sur le point d'aboutir, pouf! Tu sais, il y a eu beaucoup d'histoires un peu nébuleuses autour de Tom Lapointe, mais on retient le journaliste qu'il a été avec ses deux grands... son grand scoop.
C'est vraiment qu'il s'est lancé en affaires. Il y a eu comme un... Il s'est lancé, il y avait un salon de massage légitime, en passant.
Ouais.
Okay. À Montréal-Nord, en haut, on avait été à l'inauguration. Il s'est lancé dans la restauration. Il a essayé plein de choses.
Il a essayé plein d'affaires.
Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, il y avait des emplois importants, là. Tu comprends? Fait qu'il y avait des revenus, mais probablement qu'il gérait mal les revenus. Puis c'est ça.
Bien dommage.
Oui, c'est bien, bien dommage, mais tout ça pour te dire que...
J'aurais essayé. C'est ce que, parce que Régent Tremblay a écrit un papier là, ouais. sur Tom, le sachant, aux soins palliatifs. Et Régent a demandé à Tom, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Et Tom Lapointe, Denis, de son vrai prénom, a dit, j'aurais tout essayé. C'est ce qu'il veut qu'on retienne.
Il a vraiment tout essayé, ça je peux te le dire. Puis c'est un fonceur, puis ben chapeau, puis bravo, puis on pourra jamais lui enlever que cette fameuse primeur, ces deux primeurs-là, c'est le tour de Guy Lafleur aussi. Mais comme je te dis, ces des gars-là, tu sais, il n'y avait pas des réseaux sociaux, tu devais sortir d'un restaurant, ouais. tu devais aller dans les événements, t'étais obligé d'être sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Un vaste réseau.
Ouais, c'est comme ça que tu faisais des contacts, c'est comme ça que tu apprenais des nouvelles,
tu développais des relations avec les athlètes, les joueurs. Te faisait confiance, te donnait de l'information sur le couvert d'anonymat, que tu sais, il se retrouvait dans le party de Marie Lemieux. Cette primeur-là de Gretzky, puis j'insiste, là, je reviens là-dessus, cette transaction-là aurait jamais dû arriver, elle aurait dû être empêchée par la Ligue nationale parce que c'est une transaction d'affaires. 15 millions est impliqué là-dedans. Tu comprends? Ouais. Buck Linton a vendu Gretzky à Bruce McNall pour 15 millions. Ouais. Il y a eu des joueurs impliqués. Puis c'est dommage parce que les partisans des Oilers ont gagné une coupe un an plus tard, mais Gretzky aurait jamais dû quitter Edmonton.
Paix à son âme, donc, Tom Lapointe qui nous a quittés en fin de semaine.
Je pense aussi que ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette fin de semaine dans les articles, je pense aussi qu'il avait mené une longue bataille pour qu'on change le trophée du marqueur de but dans la Ligue nationale, pour qu'on ait un trophée au nom de Maurice Richard.
Exact. C'est lui aussi qui est derrière ça.
Exact.
Oui, comme Rome Fournier a voulu que Butch Bouchard, son numéro, soit retiré. C'est des gars qui croyaient beaucoup à la tradition puis qui ils en ont vu du sport. Là. Fait que ils avaient un pouvoir à ce moment-là.
Parlons de lapin.
Hey, les boys.
Est-ce qu'ils en ont un autre dans leur chapeau, les Oilers?
C'est-tu un lapin qui doit sortir du chapeau ou un gardien de but?
Ah. Les deux.
Puis, un gardien de but lapin, peut-être?
Un gardien de but lapin.
Mais là, tu irais avec qui, toi?
Ben, je le sais plus.
Je disais, ce matin, il disait, ben, on peut rien reprocher à Pickard. C'est des lancers voilés, des échappés. Je sais pas, on va réfléchir, on va parler avec tout le monde. Mais là, il se gratte la tête.
Ah, il a dit aussi que l'attaque des Oilers avait abandonné ses deux gardiens de but au fil de la série, surtout dans le dernier match, qu'on devrait être en mesure de marquer plus de buts. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est les premières périodes dans cette série-là. Les Panthers qui marquent souvent le premier but, qui, en première période, domine complètement les Oilers d'Edmonton. Il y a quelque chose qui se passe. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qui explique ces mauvais départs-là pour les Oilers, mais tu peux pas revenir de l'arrière comme tu l'as fait dans le match numéro 4 une autre fois dans cette série-là. Ça arrive pas, des déficits de 0-3 ou quand tu perds 0-2, que tu reviens, tu retires de l'arrière, tu reviens. Faut trouver un moyen de marquer au moins le premier but dans le prochain match.
Puis c'est un défi cette année dans les séries, puis ça va être un défi l'année prochaine puis les années après. Là, faut que tu règles ce défi-là de gardien de but.
Aussi.
Parce qu'un gardien de but, ce que tu veux, c'est qu'il soit constant. Il peut avoir un mauvais match, une mauvaise période. Mais là, ils n'ont pas de constance. Puis c'est pas à la faute des gardiens de but. Mais non. Comme tu disais la semaine passée, il doit te sauver
exact.
Des matchs quand ton équipe compte pas autant de buts. Tu comprends? Puis là, il y a les gardiens de but. Mais McDavid et Draisaitl doivent prendre les Oilers sur leurs épaules, là, mercredi. Ils doivent sortir la performance de la saison, les deux.
Pas le choix.
Ils n'ont pas le choix, là. Tu comprends? C'est les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Puis, crédit aux Panthers, qui jouent très bien défensivement. Crédit à Paul Maurice,
aussi.
Qui a inculqué une mentalité défensivement, premièrement. Ça va être un défi, mais c'est pas impossible la façon dont ça va arriver. C'est pas impossible.
Mais les deux victoires des Oilers ont été en prolongation, puis c'était des gros pointages aussi. Là.
C'est ça. Alors, mais ils ont tout un défi. Moi, je sais pas qui vont choisir. J'ai l'impression qu'ils vont revenir avec Skinner. C'est mon feeling. Je dis pas que c'est mon choix. Je ne sais pas ce que je ferais. Puis je pense que la pause, l'autre chose, la longue pause, profite plus aux Panthers qu'aux Oilers.
Je pense aussi. Je pense aussi, pour poser les joueurs.
Même
pour...
si les Panthers sont plus jeunes que les Oilers, moi je pense que dans le style des Panthers, la pause leur profite plus.
Est-ce que la pression est saine ou malsaine? Je me mets dans la peau de Connor McDavid. Parce qu'il y a de la pression. Ouais. S'il perd demain, lui, dans sa tête, là, lui, là, quand il se couche, là, il se dit « Colin, je serai jamais un grand si je gagne pas la Coupe Stanley. Ça se peut qu'elle m'échappe encore deux années de suite. » Est-ce que cette pression-là, pour un gars comme Connor McDavid, c'est sain ou malsain, selon vous? Pour le type de joueur qu'il est, depuis que vous l'avez vu dans
la ligue. C'est un compétiteur. Ce gars-là, je peux pas croire qu'il ne va pas remporter au moins une Coupe Stanley en carrière. C'est En ce moment, il n'y a rien. Je comprends là, que son équipe, il y a lui, il y a Draisaitl, il y a quelques bons joueurs, mais défensivement, c'est pas nécessairement. Mathias Ekholm, qui pour moi joue encore blessé. Oui, il est revenu en séries éliminatoires, mais il semble blessé ou incommodé. Devant le filet, ça fait pas le travail. Moi je pense que. En plus, avec la conquête du tournoi des quatre nations cette année, je me disais, OK, c'est l'année qu'on a McDavid.
Tu sais, ta question est bonne, Ben. Moi, je pense que c'est le type d'athlètes qui sont construits différemment. Ouais. Je pense pas qu'ils ont. Je pense pas que c'est comme ça qu'il réfléchit, lui.
Non?
Lui, moi, je pense qu'ils sont confiants qu'ils vont gagner le prochain match.
Ouais.
Ben, je pense que oui. Ce type d'athlète-là, tu sais, des Alcaraz qui se disent, moi, c'est pas grave, là. Ouais. Je vais pour la ligne, puis j'ai confiance. C'est la confiance en premier. C'est pas, ah, si je perds. Je pense pas qu'ils sont là-dedans. Pendant l'été, il va faire des retours là-dessus. S'il ne gagne pas, ce qui n'est pas fait encore, ils peuvent la gagner, la Coupe Stanley. Là. Mais moi, je pense que c'est des gars, ils peuvent pas arriver là, peuvent pas avoir gagné autant, peuvent pas avoir été si bons pendant si longtemps depuis qu'ils sont tout jeunes, si leur premier réflexe est toujours « on peut revenir, on va gagner, je suis confiant, je vais faire la différence ». Moi, je pense que c'est ça. À moins qu'ils soient blessés.
Ah, ben ça!
À moins qu'il y ait un bobo qui l'empêche de faire certaines affaires. Moi, je pense qu'il y a un petit bobo, ceci dit. Là.
Ouais.
Mais c'est qu'on se rend pas, tu sais, nous autres, moi, je vais parler pour moi, le commun des mortels, premier réflexe, c'est tout le temps, ouais, mais si. Moi, je pense que ces athlètes, aussi bons sont-ils, c'est toujours, je vais réussir.
OK, parce que, tu sais, on parle de pression. Je vais te faire un parallèle. Il y a eu l'US Open en fin de semaine, là, oui. Avec un golfeur amateur comme moi, comme toi, je sais que t'aimes beaucoup golfer.
Ouais.
T'es dans la trappe de sable, là.
Ouais.
Puis là, tu veux sortir ta balle. Pas toujours facile, là. En tout cas, moi, je la sors une fois sur deux. Là, tu la sors, mais en fait, tu frappes dans le sable, elle reste dans la trappe.
Ouais.
Là, tu dis, OK, là, le prochain coup, c'est pour me mettre en position pour un bogey.
Ouais.
Tu refrappes une autre fois, elle reste dans la trappe, puis là, tu dis, OK, le prochain coup, je la frappe pour me mettre en position pour un double bogey. T'es amateur, tu joues pour le fun, puis la pression est dans le tapis en ce qui me concerne. Faut short cette maudite balle-là, sinon c'est un triple ou un quadruple bogey. Alors imagine eux autres pour la Coupe Stanley, tu comprends?
Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont là et que nous autres, on est encore dans la trappe.
C'est vrai.
Non, je te le dis. Puis là, je sais pas si vous lisez un petit peu là-dessus, là, le 20e siècle, c'était toute l'étude du corps. Qu'est-ce que le corps, comment le corps peut t'amener à exceller? Et maintenant, là, au 21e siècle, c'est ton cerveau. Comment penser? Comment mettre en... Mais ces gars-là, ça, c'est pour nous autres, le commun des mortels. Mais pour ces gars-là, c'est naturel, c'est inné. C'est, je suis en trappe, moi, là, c'est pas comment je vais sortir, est-ce que je vais sortir? C'est, OK, je la mets à un pouce. Je la mets... Eux autres, c'est même pas ça. Là, il faut... C'est quoi l'angle du verre pour que je la mette dans le trou? C'est de même qu'ils pensent. McDavid, il n'est pas en train... Je pense. McDavid n'est pas en train de se demander, « Ouais, mais si, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Tu peux pas réussir à ce niveau-là si tu penses de même. Lui, il est en train de visualiser, de compter le but gagnant, de faire gagner. Comment... Il pense déjà au septième match. Ils sont confiants. Après ça, ils se disent, « Bon, OK. Ouais. » Ils n'ont pas le choix, parce que sinon, la pression, tu vas crouler sur la pression. C'est ce que je pense. C'est ce que j'observe des plus grands. Et McDavid, certains le considèrent comme le plus grand joueur de hockey de tous les temps au niveau de ses habiletés physiques. Mais il faut que le mental suive. Il peut pas être dans la peur. C'est ça que je veux te dire.
C'est pas un gars qui sous-performe non plus en séries éliminatoires. T'sais, c'est un gars qui performe en séries éliminatoires. Il est juste pas en mesure de mettre la main sur la Coupe Stanley. Il a fait une différence avec le Canada au tournoi des quatre nations. C'est lui qui a marqué le but gagnant. Je pense que c'est inné en lui, cette compétition-là, autant à l'interne ou peu importe, cet esprit-là de compétitivité, c'est inné en lui. Sauf qu'il est pas en mesure d'aller la chercher. Mais le hockey, c'est un concept d'équipe. Tu gagnes pas tout seul. Tu comprends? Puis l'équipe, en ce moment... Ben, ils sont moins bien bâtis que celle des Panthers de la Floride, qui sont mieux bâtis, qui ont plus de force de frappe, qui ont une meilleure profondeur, qui ont un meilleur gardien de but.
L'argent est mieux réparti aussi.
L'argent est mieux réparti, mais là, après ça, la prochaine étape, dans la tête de Connor McDavid, ça va être de se dire, quand je vais signer mon prochain contrat, combien je signe, est-ce que j'en laisse sur la table? Parce que lui, il va devenir le joueur le mieux payé dans la Ligue nationale.
Ouais.
Mais est-ce que j'en laisse sur la table, comme plusieurs ont fait, des Sidney Crosby, pour permettre à mon équipe d'avoir de meilleurs joueurs, être une équipe plus complète, pour éventuellement soulever la Coupe Stanley.
Tu sais qui s'alive présentement si les Oilers ne remportent pas la Coupe Stanley et le prochain contrat à Connor McDavid? C'est Toronto.
Ils s'alivent, Toronto?
Pas l'organisation. Les médias à Toronto, ils lancent des spéculations à se dire « Et si McDavid s'en venait à Toronto? Et si son prochain contrat, c'est avec Toronto? » C'est le rêve à Toronto, là, tu comprends? parce qu'il va avoir des décisions à prendre. Admettons que les Oilers, parce que tu regardes là, la façon que leur masse salariale est construite, éventuellement, ils ont des décisions à prendre au niveau de la profondeur. Ouais. Alors, est-ce que la fenêtre va se fermer l'année prochaine? Tu comprends? Et là, est-ce qu'il va vouloir aller ailleurs? Puis là, à Toronto, on se dit, waouh, tu comprends, on va perdre, mais vous en parliez tantôt, on va perdre Marner. Je te dis pas que c'est ce que l'organisation des Leafs va réussir à faire. Je te dis que dans les médias, il y a certaines personnes qui se disent, et si Mick David arrivait à Toronto, est-ce que c'est lui le sauveur? Alors, tu sais, mais il reste que c'est un joueur fabuleux qui pourrait faire la différence à lui tout seul. Mais c'est un concept d'équipe, puis il y a des gardiens de but, puis tout ça, fait que... J'ai hâte à... Mais je trouve ça long, mais en même temps, je comprends aussi à cause du décalage horaire.
Y a ça.
Ils disent que c'est une journée par heure de décalage horaire pour récupérer. Si tu vas avoir les joueurs au maximum. Mais moi, je pense que la pause profite plus aux Panthers pour leur style de jeu que les Oilers. T'sais.
Un dossier qui vous excite tous les deux beaucoup. Les prochains Jeux olympiques avec les joueurs de la LNH qui vont en faire partie. Les 6 premiers donc seront nommés aujourd'hui. Les commentaires d'Éric Auziel là-dessus. Après ceci. On fait jamais de cachette à personne.
Non.
Nous sommes transparents et on dit toujours les vraies affaires. Alors, Éric Auziel, au quotidien, c'est deux rendez-vous. 11h et 13h30. 13h30, c'est ce qui a été diffusé à 11h. On s'entend, on l'aime tellement, Éric, que si vous l'avez manqué, on veut pas que vous le manquiez deux fois. Alors, au moment où on enregistre, en fait, on est en direct en ce moment, mais quand vous allez réentendre ce segment plus tard, les 6 du Canada auront été nommés. On parle ici des Jeux olympiques, Éric.
Oui, de 2026. Ouais. Je trouve que c'est un outil de marketing très brillant.
Très brillant.
Très brillant. Chaque pays va nommer ses 6 premiers. Puis je rappelle à tout le monde, c'est pas parce qu'il y a un joueur qui n'est pas dans tes 6 premiers qui ne seront pas dans l'édition finale, là. Mais si je me base sur les 4 nations, FX et Ben, je pense qu'on s'entend tous sur les 4 premiers des 6.
Les 4 premiers, c'est sûr.
C'est sûr.
Sidney Crosby.
Oui.
Nathan MacKinnon.
Oui.
Connor McDavid.
Oui.
Et Cal Makar.
Voilà.
Tes 4 premiers, c'est sûr que c'est ça. Il faisait partie aussi des 4 nommés pour le Canada au tournoi des 4 nations avec 2 autres joueurs.
Je parlais avec les gars avant de rentrer en onde, les Jacob et Pio, puis Hugo, puis tout ça. Puis il y en a qui sentaient, qui lançaient, est-ce que Marchand va être là-dedans? Moi, je pense pas que Marchand va être dans les 6 premiers malgré les séries qu'il connaît.
Moi non plus. Il l'était pour le tournoi des 4 nations, mais là...
Ben moi, si je me base au tournoi des 4 nations, il a été bon, mais il n'a pas été assez bon pour être dans les 6 premiers.
C'est ce que je me dis aussi.
Puis je regarde les autres pays, il y a des pays qui n'ont pas nommé de gardien de but.
Non.
Est-ce que Bennington va être nommé dans les 6 premiers? On va le savoir très bientôt. Là.
Ah, je pense pas. Je pense pas qu'il va être nommé dans les 6 premiers.
Tu penses qu'il y a un doute encore pour Team Canada?
Je pense.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Là.
Je pense qu'il part favori pour le poste de gardien de but partant, comme l'an dernier.
Mais il n'y a pas d'urgence à nommer. T'sais, c'est un outil de marketing qui va être utile. Moi, je pense que Marner va être ton 5e.
Marner va être là. C'est mon 5e aussi.
C'est mon 5e.
Mitch Marner va être là. Il n'était pas là. Il n'était pas parmi la liste des 6 annoncés pour le tournoi des 4 nations l'an dernier.
Ouais.
Mais là, je pense qu'il va être là. Il va signer un gros contrat en plus.
Ouais,
là,
Marner,
ça sent bien,
ce qu'il m'a montré dans les 4 nations, je pense que Marner, il est important dans ton alignement.
Ouais.
Puis je pense que ça va être un défenseur, ton 6e.
Ah ouais, tu y vas avec un défenseur?
Ouais, j'hésite entre Morrissey et Hurley.
Ce serait Morrissey, je pense, avant.
Ce serait Morrissey, je pense. Ouais.
Et moi, je suis complètement déchiré. Je pense que je vais avec un autre attaquant.
Bennett? Pas Brandon Point?
Je pense que je vais avec Brandon Point comme 6e attaquant.
Il a été bon.
Il a été bon. C'est un bon joueur.
Mais je pense que moi, ils vont y aller avec un défenseur. Puis je pense que ça va être Morrissey. C'est soit Morrissey ou Bennington pour moi. Puis on s'entend que Point va être dans l'alignement. On s'entend que c'est sûr qu'il est là.
C'est sûr qu'il est là, mais il y a des surprises quand même. Là, je regarde les autres formations. Là, l'Allemagne a nommé ses 6 joueurs, puis là-dedans, t'as pas J.J. Peterka, mais tu retrouves notamment des Nico Sturm et des Lucas Reichel. Il y a des décisions qui sont bizarres un peu, mais je pense que si tu veux vendre ta formation canadienne, je pense pas qu'on va y aller avec Bennington. Mais ça se peut qu'on y aille avec Hurley et Morrissey.
Ben, c'est un des deux. C'est un des deux, parce que si on s'entend tous les deux que c'est Marner qui serait le cinquième. Tu comprends? Fait que, mais c'est un excellent outil de marketing. Les Américains n'ont pas nommé leur 6 encore. Est-ce que tu irais avec les deux frères Tkachuk dans tes 6?
Deux frères Tkachuk, Austin Matthews
Jack
quand même.
Jack
Eichel.
Quinn Hughes,
c'est sûr. Il en manque un 5e.
Ben, il y a Hellebuck. Ah non!
T'as pas le choix. Ben, c'est gagnant du Vizina. Il choke en série. Mais tu sais, les Jeux olympiques, c'est un format série, ça?
C'est un tournoi de deux semaines.
Un tournoi de deux semaines, ça va vite.
Un tournoi de deux semaines, là. C'est pas des deux de trois, là.
De la pression, là, là.
Ouais, mais
Connor,
moi,
quand il y a de la pression, il est pas bon.
Je pense pas que tu y vas
avec Connor. Il est dans la trappe.
Tu y vas pas avec le Buck?
Je pense pas que je vais avec Kelly Buck.
Moi, je pense qu'ils vont y aller avec le Buck. On va le savoir bientôt, là. T'sais, c'est aujourd'hui que ça doit être dévoilé. Fait que c'était un excellent outil de marketing. Puis moi, ça m'excite parce que ça va venir vite, là.
Oui, ça va venir
vite. Puis, tu sais, dans le bilan qu'on fera peut-être plus tard cet été, dans la saison 2024-2025, naturellement, il y aura les séries de la Coupe Stanley. Mais le tournoi des quatre nations, c'est à refaire.
Oui, c'est sûr.
C'est quelque chose qu'on doit revivre. Et out les matchs des étoiles, je sais que c'est très bon pour les commanditaires, mais c'est rendu inutile. Tout sport confondu, à part peut-être
donc,
le baseball.
Donc, c'est aux deux ans. T'as les Olympiques... Ouais. Quatre nations, Olympiques, quatre nations.
Ouais, ben, non, puis moi, je m'entraîne une année de off, rien.
Une année?
Oui, pour que les joueurs récupèrent un petit peu. Tu sais,
je pense qu'on va quand même avoir un match des étoiles pareil.
Ben, pour moi, c'est inutile. Mais ouais, ça, c'est personnel. Puis c'est correct, ils vont le faire pareil. Ils n'ont pas besoin de demander mon avis. Mais moi, c'est, je trouve, une perte de temps. C'est du fla-fla pour rien. Même rendu les concours d'habilité, c'est rendu... C'est,
il n'y a personne pendant le tournoi des quatre nations cette année qui dit « Ah, ouais, c'est bon, mais il me semble que je m'ennuie du match des étoiles. »
Alors,
personne
c'est sûr qu'il y avait le contexte politique. Mais pour moi, les ovations qu'on a données à Mario Lemieux, toute la controverse autour du politique, pauvre Wayne qui a été attaqué de toutes parts au Canada parce qu'il aurait donné des high-fives aux joueurs des Américains en embarquant sa glace. Puis on n'a pas pris pour compte qu'il avait été dans le vestiaire canadien, qu'il avait donné des casquettes. Wayne, bon, ça c'est un autre sujet. Wayne, tu sais, je trouve qu'on l'a été un petit peu exigeant envers lui, tu sais. Mais bon.
Moi, tu me chatouilles encore avec la formation américaine. Moi, je vais te faire une prédiction. Je pense que le sixième, ça va être un défenseur. Ce sera pas les Bucks. Ça va être Werenski ou peut-être Charlie McAvoy.
Ben, les deux sont très bons, là. Mais moi, je pense qu'avec la saison que Werenski a connue, ça va être Werenski.
Puis tu mets les deux frères Charlie Ketchuk? McAvoy. Les deux.
Avant Jack Hughes?
Ah, c'est sûr. Ah oui. Oh. Ah non. C'est sûr que t'es un homme. Mathieu, t'es en finale pour une troisième année de suite. Birdie
si
Ketchuk, c'est le capitaine des Sénateurs.
Si c'est tu mets les deux frères Ketchuk.
C'est sûr que t'es là. Sont là. Ouais. C'est sûr qu'ils sont là.
Ouais.
OK, les gars, on a une petite minute et demie pour Shohei Ohtani.
Hey,
il sera de nouveau lanceur.
Ouais. Hey, puis je l'avais écrit ce matin avant que ça soit confirmé. Je dis dans les prochains jours, prochaines semaines, il va revenir au Monticule. Ils l'ont engagé en partie pour ça. Shohei Ohtani n'a pas lancé dans les majeurs depuis le 23 août 2023. Il a signé son gros contrat avec les Dodgers.
2023?
Oui.
Ben oui, c'est vrai, il n'a pas lancé pantoute de l'année passée.
Puis ça, les Dodgers le savaient. Il devait commencer au début de la saison, mais dans les séries l'année passée, en série mondiale, il s'est fait mal à l'épaule gauche, qui n'est pas l'épaule avec laquelle il lance. On a vu des situations de jeux simulés où il lançait une cinquantaine, soixantaine de balles. Il va lancer ce soir contre les Dodgers, contre les Padres. Les Dodgers qui ont des gros problèmes comme lanceurs partants, ils ont des blessés à des lanceurs partants importants. Il va être le bienvenu. Ils sont seulement deux matchs en avant dans leur division. Et il va peut-être lancer une manche seulement, peut-être deux ou trois, on ne sait pas. Il va peut-être lancer une cinquantaine, soixantaine de tirs au maximum. Mm-hmm. Mais ça, c'est important pour le baseball majeur, c'est important pour les Dodgers, c'est toute une attraction. Je peux te le dire, moi quand j'étais à Los Angeles au mois de décembre, il y avait des autobus qui faisaient la ligne pour aller au Dodgers Stadium acheter des chandails de Shohei Ohtani.
Wow.
C'est des autobus de tourisme japonais. Il est vraiment quelqu'un que j'ai hâte de voir ce soir.
Moi aussi.
Mais tu sais, attendez-vous pas à cette manche là.
Mais non.
Une ou deux manches, ils vont le ramener graduellement. Le défi avec Ohtani, c'est qu'il pouvait pas aller faire un stage dans le 3A.
Non.
Pour se remettre en forme. Il est trop important.
Il est trop important à l'équipe.
C'est
en plus une série importante contre les Padres. Parce que tu disais les Dodgers, quelques difficultés au Monticule et tout ça, mais les Dodgers ont trois matchs de priorité sur les Padres qui sont troisième.
C'est ça.
Et les Giants sont deuxième à deux matchs des Dodgers. C'est très serré dans cette division-là.
C'est très, très
serré. Une série de quatre matchs entre les deux équipes.
Et les Giants qui viennent d'acquérir Rafael Devers, puis j'ai lu un papier qui ont dit à part les Expos de Montréal, qui d'autre échange deux futurs temples de la renommée en dedans de 5 ans. Parce qu'ils ont échangé Mookie Betts, les Red Sox. Fait qu'on a nommé les Expos là-dedans, puis ça me rappelle toutes ces ventes de feu des Expos de Montréal.
Ah, non, va pas là, c'est un beau... Non. On passe un beau lundi, là.
Ouais. Fait que Eric Ozian, merci. Les Giants ce soir, les Padres contre les Dodgers. Shohei Ohtani est de retour.
Shohei Ohtani, de retour sur la, sur la butte, sur le monticule. Eric Ozian, c'est toujours un grand plaisir.
Merci les gars.
Merci, on se refait ça demain.